Bien sûr, ma voix n'est plus bonne, mais vous pouvez le comprendre. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous le faisons de tout notre cœur et nous ne nous ménageons pas. Nous parlons comme s'il s'agissait de notre dernière réunion, car nous ne savons jamais si nous en assisterons encore à une. Ici, nous avons perdu l'habitude de parler avec tout ce qui est en nous. Nous avons l'amplification devant nous, le micro, et il nous suffit de parler dans ces microphones, et le reste est déjà souligné. Mais il est souvent nécessaire d'insister sur ce que l'on dit pour que les gens sachent que l'on pense ce que l'on dit et que l'on dit ce que l'on pense. Nous savons que Dieu a toujours agi ainsi. Il a toujours dit ce qu'il pensait et il pensait ce qu'il disait. Chez l'homme, ce n'est pas toujours garanti. Souvent, on a une pensée qui nous dit, si tu dis ce que tu penses, quand résultera-t-il? Et voilà que l'on dit ce que l'on ne pense pas. Et que l'on se retrouve en désaccord avec soi-même et peut-être avec les autres. Mais nous pouvons toujours nous fier à la parole de Dieu et savoir qu'elle est oui et amen. Elle est aussi certaine qu'il l'a prononcée et trouvera son accomplissement une chose après l'autre. Nous savons que Dieu a ordonné toutes choses depuis le début. Aujourd'hui, j'ai voulu rassembler quelques pensées pour les émissions de radio. Et il faut simplement comprendre que Dieu a tout ordonné depuis le début. Par exemple, s'il n'avait pas mis en tout, dans chaque graine, le germe pour la reproduction et la multiplication, on aurait moissonné une fois le champ de blé et on serait mort ensuite. Parce qu'il n'y aurait plus rien, eu pour semer et moissonner à nouveau. Mais Dieu a immédiatement déposé la semence en toute chose, en toute plante, en tout arbre. Il a mis ce qui était nécessaire afin que l'on puisse semer et récolter à nouveau chaque année. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a prononcé, qui l'a dit, et il a dit, tant que la terre existe, été comme hiver, il y aura de l'été, de l'hiver, il y aura des semailles et des récoltes. C'est ainsi, il n'y aura pas d'autre solution. Aucun homme ne peut le refuter. Il a ordonné toutes choses ainsi. Et si l'on réfléchit au fait que Dieu a déjà pris soin de la création terrestre de telle sorte que tout soit au bon moment, au bon endroit. Et si l'on voyage à travers les pays de cette terre, à une extrémité, c'est l'hiver, à l'autre, c'est l'été, à une extrémité, le jour, à l'autre, la nuit, au même moment. Et partout, Dieu a pourvu à tout. Quand on voyage à travers les pays africains, on voit des fruits qu'on n'a jamais vus. On ne l'a jamais vu. Mais c'est suffisant pour que les gens puissent en vivre s'ils s'en servent. Partout, sur toute la terre, Dieu a pourvu à tout d'une manière tout à fait merveilleuse. En tant que créateur pour la création, si nous transposons cela dans le domaine spirituel, nous devons nous dire que le Rédempteur a aussi pourvu aux besoins de tous les rachetés. Si le Créateur a déjà tout organisé de manière si parfaite et si fluide dans la création, combien plus le Rédempteur doit-il avoir tout organisé pour les racheter? Il doit avoir tout prévu, sans effort, et sans que nous ayons à intervenir. Il a tout donné par grâce. Il n'y a rien dans la création qui puisse céder lui-même. C'est soumis à la loi de celui qui l'a créé. Nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les lois qui s'appliquent à nous sont celles de la nouvelle alliance du peuple racheté et appelé par son nom. En tant que son peuple, nous, en ce temps, nous pouvons nous remettre en toute confiance entre ses mains, sachant qu'il fera bien les choses. Nous ne pouvons faire descendre la bénédiction de Dieu que par la foi et la confiance, sinon par rien d'autre. Et cela devrait avoir été déposé dans nos cœurs après avoir vu la main de Dieu d'une manière aussi puissante et avoir vécu ses bénédictions de manière aussi merveilleuse. Cela me rappelle ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a sans doute déjà exprimé dans la prière que sur la montagne là-bas, l'expérience est descendue à la Pentecôte et que les gens ont été baptisés d'esprit et de feu. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne, il avait amené les 70 anciens avec lui, mais deux étaient restés dans le camp. Là, l'Esprit de Dieu les a saisis et trouvés. Là, il est venu sur eux et ils se sont mis à prophétiser. Et quand Josué a rencontré Moïse, il lui a raconté l'histoire. Il était tout bouleversé. Et Moïse dit, est-ce pour moi et par souci de moi que tu te mets dans un tel état de zèle? Moïse voulait dire, as-tu peur qu'on me fasse concurrence s'il y a encore quelqu'un qui prophétise? Et il répondit, que Dieu donne que tout son peuple prophétise et que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Et nous entendons Paul dire presque les mêmes mots lorsqu'il déclare, je voudrais que vous parliez tous en langue, bien plus que vous prophétisiez tous, aspirez au don de l'Esprit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de jalousie. Nous nous réjouissons lorsque l'Esprit de Dieu tombe, se déverse, lorsqu'il peut agir et se manifester puissamment. Où et sur qui? C'est son affaire. Nous l'avons entendu ici dans la parole d'introduction. Grand est l'Éternel. Il est exalté. Psaume 48, verset 2. L'Éternel est grand, il est exalté dans la ville. Il s'est montré puissant en tant que haut et exalté sur les siens. Et c'est pourquoi il faut le louer hautement. Il est dit ici, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, psaume 48, verset 2. Ce sont tous des contextes qui nous rappellent ce que Dieu a fait autrefois, d'une manière particulière, lorsqu'il est descendu dans toute sa gloire et a donné sa parole à Moïse pour Israël, ainsi que des lois auxquelles ils devaient se conformer et des instructions auxquelles ils devaient se conformer. Le ciel s'était abaissé et les gens étaient saisis d'une grande crainte car ils voyaient qu'un sérieux saint était associé à la proclamation de la parole de Dieu. On n'entendait pas seulement une voix, le feu était visible et quiconque touchait la montagne sans y être autorisé était un enfant de la mort. avec la proclamation de la parole de Dieu, un saint sérieux a été associé dès le début. Il n'y a pas eu de proclamation de Dieu ici-bas qui n'est invité, qui n'est invité à l'obéissance et appelé à la foi. Chaque fois que le Seigneur parlait, c'était avec un saint sérieux saint. Et tous ceux qui avaient compris ce que Dieu avait à leur dire, ils le croyaient et ils faisaient l'expérience de sa gloire. Grand est le Seigneur. Il est exalté dans la ville de notre Dieu. Psaume 48, 2. L'Éternel est grand. Il n'est pas n'importe où, il est là où son peuple est rassemblé. Et s'il a dit lui-même, si l'on vous dit qu'il est dans le désert, ou qu'il est ici, ou qu'il est là, ne croyez pas. Matthieu 24, 26. Mais si l'on vous dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Là, vous pouvez le croire, Matthieu 18, verset 20. Il est toujours là où sa parole s'accomplit. Si l'on dit, il est dans le désert, ou bien il est ici et là, aucun homme n'est obligé de le croire. Mais si nous disons, il est là, où deux ou trois sont réunis en son nom, alors nous avons un fondement biblique. Et parce que nous avons un fondement biblique, nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. La parole du psaume que nous avons déjà lu, elle se poursuit ici. Psaume 48, verset 3. S'élève glorieuse l'allégresse de toute la terre, la montagne de Sion, la vraie montagne des dieux, la cité du grand roi. Le Dieu vivant est le roi des rois, de tous les rois. Et si la question ici d'une montagne des dieux, ce n'est pas en référence à la divinité au pluriel, mais au rassemblement. Lorsque le Seigneur se tient avec tous ceux qui sont à sa droite et à sa gauche et qui sont à sa disposition, comme à l'époque de Job où chaque fois qu'il est venu, même à l'époque de Moïse, nous lisons déjà qu'il est descendu avec des dizaines de milliers de saints. Et Enoch a encore mentionné cette prophétie dans le Nouveau Testament. Bien, cela est mentionné dans le Nouveau Testament, faisant référence à Enoch. Je ne sais pas. Vous savez, qui sait ce soir, c'est l'étude biblique, hein, qui sait où se trouve la parole, qu'il est descendu avec des dizaines de milliers. Je l'ai encore lu il y a quelques jours, mais je dois malheureusement dire que dans la Bible anglaise, là, je pourrais l'ouvrir tout de suite. Je veux dire maintenant la parole dans Moïse. Donc, dans Judas, je peux presque dire que c'est écrit dans le verset comme ceci ou comme cela. Mais je cherche le passage dans Moïse, où la même parole, comme elle est dite dans Jude, nous est dite aussi dans Moïse. Pourquoi ne pas faire une étude biblique? Vous avez tous votre Bible, n'est-ce pas, ici, chez vous. Nous cherchons de toutes nos forces. Et dans tous les cas, il est écrit que le Seigneur, avec des dizaines de milliers de saints, c'est écrit dans la parole, il s'assoit à ses pieds et il avait des paroles pour eux. Peut-être que je le trouverai. J'ai encore une autre question à laquelle je n'ai pas non plus tout à fait répondu mercredi dernier. Je suis en effet désolé quand on ne répond pas aux choses comme on le devrait. Mais c'est Deutéronome 33, bien sûr. Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï et il est apparu à son peuple depuis Zéhir dans une splendeur éclatante. Il a fait briller sa lumière depuis la montagne de Paran, et il est venu du milieu de saintes troupes de 10 000 hommes. Il y avait pour eux, à sa droite, un feu ardent. Oui, il a entouré d'amour les tribus. Tous ses saints sont dans sa main. Ils étaient campés le long de sa voie, de ta voie. Ils étaient campés le long de ta voie, de sorte que chacun a reçu quelque chose de tes oracles. J'ai utilisé la traduction anglaise pour la dernière partie, c'est-à-dire afin que chacun reçoive quelque chose de ta parole. En allemand, de tes oracles, en allemand, en France, en anglais, de ta parole. J'ai utilisé la traduction anglaise ici. Que ce soit parole ou de tes paroles ou bien de tes oracles, nous voyons que le Seigneur est descendu avec des dizaines de milliers de saints. Dès le moment où il s'est révélé au peuple d'Israël. Si l'on prend cette parole concernant le prophète Daniel, elle est écrite presque de la même manière. Et si on la prend dans la Genèse où le Seigneur dit, faisons des hommes à notre image. Faisons l'homme à notre image. Au pluriel, à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, il était toujours entouré. Hein, d'eux. Et nous devons savoir que Dieu, et peut-être pas tout à fait compréhensible pour tous, mais Dieu a des fils sur la terre et dans le ciel. Si nous lisons Job, il est dit, et les fils de Dieu se rassemblèrent devant le Seigneur. Alors, il y a des gens qui veulent mal comprendre ce qui a été dit et qui pensent que c'était déjà l'épouse qui était là dans la gloire devant le Seigneur. Qu'elle aurait dû être préexistante. Ce n'est pas vrai. Cela n'a pas besoin d'être ainsi, car Dieu a des fils qui ont été créés et il a des fils qui ont été engendrés. Si l'on pense aux anges, ils sont créés. Mais ensuite, quand il parle du Christ, il dit, « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Et si nous regardons ensuite tous ceux qui sont nés de nouveau par la parole de la vérité, ils ont été appelés à l'existence et à la vie par l'engendrement de l'Esprit comme fils et filles de Dieu. Il n'est pas nécessaire de les confondre, ce n'est même pas nécessaire. Mais nous voyons que le Seigneur a toujours été entouré d'eux depuis la création des dominations célestes et partout où il est allé, ils ont été là aussi. Dans la version anglaise, il est dit littéralement, tout comme dans l'épître de Judas, il vint avec des dizaines de milliers de saints et il y avait pour eux à sa droite un feu ardent. Comme nous l'avons déjà dit, le Seigneur Dieu est descendu sur la montagne et le feu était visible. La fumée s'élevait et il y avait là des foules saintes de 10 000 personnes avec lui quand il était descendu. Et Enoch, il a déjà prophétisé, comme le septième depuis Adam, que le Seigneur viendrait avec des dizaines de milliers de saints. Et le prophète Daniel l'a prédit. Et nous savons qu'alors ceux qui ont été élevés de la terre et qui seront pris dans la gloire reviendront aussi avec lui. Le nombre sera alors complet. Mais je n'ai pas voulu m'étendre sur ce point pour le moment. Il est dit ici, psaume 48, verset 3b, la montagne du Sion, la vraie montagne des dieux, la cité du grand roi. Dieu s'est fait connaître dans leur palais comme une forteresse. Dieu s'est fait connaître à nous de diverses manières. Quand nous avons besoin d'un refuge, il est une forteresse. Nous sommes protégés et en sécurité en lui. Si nous avons besoin de puissance, il est cette puissance. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en lui. Il est déjà question de cette cité de Dieu. Dans le psaume 46 aussi, au verset 2, il est dit ici, psaume 46, du verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et une force. » Un secours éprouvé dans les détresses. C'est pourquoi nous ne tremblons pas, même si la terre passe, si les montagnes s'enfoncent au milieu de la mer, qu'il rugisse, que ses flots écument, que les montagnes s'ébranlent par son tumulte. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Ensuite, verset 5. Un fleuve est là. Ses ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, la demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. elle ne chancelle pas. Dieu la protège dès l'aube. N'est-ce pas là une parole glorieuse, puisque nous parlons de la cité de Dieu et de la montagne sainte, sachant que Dieu est dans la cité de Dieu, qu'il habite et trône sur la montagne sainte, et que là où il est, il y a sécurité, sécurité et repos, que nous pouvons nous asseoir à ses pieds pour recevoir sa parole et nous laisser bénir chaque fois à nouveau. Verset 5, psaume 46. Un fleuve est là, ses ruisseaux réjouissent la cité de Dieu. Cela aussi est une parole glorieuse, une fois au singulier, une fois au pluriel. Il y a un fleuve, mais de ce fleuve unique résulte ou se déverse de nombreux ruisseaux. Il n'y a qu'un seul esprit, mais il y a plusieurs manifestations de l'unique esprit qui agit dans l'Église. Si nous voulions l'appliquer au fleuve qui sort de Golgotha, nous devrions dire qu'il s'agit d'un fleuve d'où de nombreuses bénédictions se déversent de toutes les manières sur le peuple de Dieu, selon l'esprit, l'âme et le corps, selon les besoins et les nécessités. Le Seigneur a pourvu à tout par grâce. Et un auteur de cantiques chante, « Celui qui s'est lavé dans ce fleuve contemple un jour la face de Dieu. » Un fleuve est là, relu le verset 5 du psaume 46. « Ses ruisseaux réjouissent la cité de Dieu. » Ces ruisseaux. Même lorsque nous lisons Apocalypse 22, il est dit qu'il y avait des arbres de vie de chaque côté du fleuve et qu'il portait du fruit 12 fois par an. Partout où un fleuve est montré, il y a du fruit, il y a de la croissance, il y a de la bénédiction. Si un fleuve est montré ici, dans la cité de Dieu, alors quelque chose doit croître, prospérer, fleurir et porter du fruit. Et la ville de notre Dieu est irrigée par ce fleuve qui la traverse. Et ce fleuve se déverse en de nombreux ruisseaux pour tout ce dont nous avons besoin. Cela y est contenu. Et nous pouvons tous, je crois, que c'est même bien écrit dans le psaume, je crois le psaume 1, où il est écrit « planté près des ruisseaux d'eau ». Et si c'est le cas pour nous, nous porterons du fruit en temps voulu, au temps convenable. Donc, pas notre fruit donc en sa saison, pas notre fruit, mais le fruit du Saint-Esprit qui se déverse comme un fleuve dans et à travers l'Église. Nous lisons, en effet, dans l'Épître aux Corinthiens qu'il n'y a qu'un seul esprit, mais qu'il y a plusieurs dons, plusieurs ministères et plusieurs fonctions dans l'Église. Mais c'est un seul et même esprit qui agit et qui opère tout. Un seul fleuve de nombreux ruisseaux qui se déversent de ce fleuve unique et qui, dans l'Église du Dieu vivant, rendent le sol fertile, l'humidifient pour que les racines soient nourries et que le fruit que Dieu veut voir en chacun de nous puisse sortir. Quelque part, dans le prophète Jérémie, peut-être au chapitre 18, 19 ou 20, il est question d'un arbre sec. Et c'est différent d'un arbre planté près d'un cours d'eau. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Même s'il fait chaud, il y a un approvisionnement. Il est planté près d'un cours d'eau. Le courant fait en sorte que même la chaleur ne peut pas lui nuire. Donc le courant, faisant référence à l'eau, il prospère et et continue d'exister. Il y a un courant. Pourquoi ? Dieu est là. Et là où Dieu est, sa bénédiction se déverse. Son esprit se déverse. Sa vie se déverse. Tout ce que Dieu a à communiquer se déverse là où il peut se manifester. Et nous l'avons déjà dit, son lieu de manifestation n'est pas n'importe où, mais là où son peuple est rassemblé en son nom. C'est là que le sol doit être fertile. C'est là que nous sommes plantés près des cours d'eau. C'est là que nous devons porter du fruit pour sa gloire. C'est la ville de Dieu. C'est le fleuve de Dieu. Ce sont les ruisseaux de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Tout est concentré dans le lieu où Dieu se révèle par grâce. Non seulement il veut se révéler, mais c'est un fait. On ne peut pas simplement dire « Dieu va d'abord le faire ». Il l'a déjà fait. Et depuis la Pentecôte, ce courant coule ici sur terre à travers l'Église et partout où des hommes comprennent ce que Dieu leur a préparé. Ils sont ramenés comme au paradis pour être en communion avec lui-même et voir tout ce qui se passe dans cette cité du Dieu vivant. Un fleuve est là. Il n'a pas besoin d'être invoqué ni d'en être supplié. Dans l'Ancien Testament, c'était le prophète Ézéchiel. Il a vu un fleuve très puissant. Il est sorti du temple. En un clin d'œil, il s'est élevé très haut. Et la voix lui dit, entre dans cette eau. Et il y va d'abord jusqu'aux chevilles, sans doute encore un peu timidement, puis jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et à la fin, il était pleinement dans cette eau. Et il a nagé dans ce fleuve. C'est ce qui est censé être. Et je me demande à quoi est dû le fait que ces ruisseaux ne peuvent pas se déverser. Le courant est là, mais maintenant les ruisseaux veulent se déverser dans une diversité, une multitude, dans l'Église du Dieu vivant. Et quelque chose devra descendre sur chacun de nous. Et chacun remarquera que le courant ou les ruisseaux l'ont atteint. Il est dit ici, le sanctuaire, la demeure du Très-Haut. Oui, qui est la demeure du Très-Haut? Il a relu la fin du verset 5 du psaume 46. On ne peut pas dire extérieurement, c'est ce bâtiment. Ce n'est pas possible. Dieu n'habite pas dans un temple construit de mains d'hommes. Il dit au prophète, quelle est cette maison ou quelle est cette maison que vous avez voulu me bâtir? N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses? Il voulait dire, si je vous avais demandé de me bâtir un lieu pour y habiter, je vous l'aurais dit de le faire. Mais alors l'homme de Dieu et l'Esprit de Dieu à travers lui parle. Dieu n'habite pas dans un temple construit de mains d'hommes. Et là, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes le temple du Dieu vivant, pas le lieu où nous nous réunissons. Peut-être devrions-nous pour une fois le formuler ainsi. Celui-ci, le bâtiment, est notre temple. Or, le temple de Dieu est notre corps. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Ceci est notre temple. Nous nous réunissons ici. Mais ce qui est rassemblé ici, ça c'est le temple de Dieu. Et nous pouvons partir du principe que le lieu où nous nous réunissons est saint. Mais je veux vous dire que le lieu n'est pas saint par lui-même. Il est sanctifié par celui qui nous a réunis ici en temple que personne, nous sommes les sanctifiés de Dieu par notre présence. Tout le lieu et toute l'atmosphère sont sanctifiés par la présence de Dieu en ce lieu. On ne peut pas simplement dire il y a une montagne sainte ou une chapelle sainte. Il n'y a pas de montagne sainte ni de chapelle sainte sans que le saint y soit présent. Et il y avait suffisamment de lieux dans l'Ancien Testament qui étaient désignés comme des lieux saints. Et dans la mesure où le saint avait quitté le lieu, ils en ont fait une idolâtrie. Un culte, une idolâtrie, et c'était tout sauf saint. Nous devons simplement voir les choses correctement. Nous sommes le temple du Dieu vivant, réunis en tant qu'Église, membres d'un seul corps. Et c'est un seul fleuve qui se déverse, mais qui veut se diviser en de nombreux petits ruisseaux. Le fleuve, en lui-même, est une chose très puissante. Et ce sont les ruisseaux qui conduisent ensuite l'eau partout, de sorte que le sol entier est irrigué par ces différents ruisseaux qui peuvent se déverser là. Peut-être devrions-nous dire que la cité de Dieu n'est pas un bâtiment de ce genre, mais plutôt une plantation, un jardin. Nous le voyons nous-mêmes à Jérusalem dans Apocalypse 22. Il y a le fleuve, il y a des arbres et il y a des fruits. Il y a beaucoup de choses à voir, à entendre et à contempler. Ici, c'est le sanctuaire, la demeure du Très-Haut, la ville du Dieu vivant où un fleuve se déverse avec puissance. Et ce fleuve unique se divise pour saisir chacun, pour nourrir chacun, pour humidifier chacun, afin que tous puissent prospérer dans la présence de Dieu. Et il est dit ici encore, psaume 46, verset 6, « Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la protège dès l'aube. Dieu est au milieu d'elle. » C'est la somme de tout cela. Si Dieu n'est pas dans une chose, on peut l'oublier. Elle a beau être bonne et belle. Si Dieu n'est pas dans une chose, cela ne vaut même pas la peine que nous en occupions. Nous savons que Dieu est dans sa parole, que Dieu est dans son peuple, et que nous pourrions tous reprendre courage ce soir et savoir que Dieu a une église ici sur terre. Et ce n'est pas par présomption, mais au nom de la vérité, que nous pouvons dire que nous pouvons faire partie de cette église qu'il a lui-même rachetée sur la croix à Golgotha, qu'il a payée de son sang précieux et saint, une église dans laquelle il s'est déversé. Nous l'avons déjà d'ailleurs souvent entendu. Tout ce que Dieu était s'est manifesté en Christ. Et tout ce que Christ était doit être manifesté par l'Église. Frère Branham le formule en effet de la manière suivante. Dieu s'est déversé en Christ et Christ s'est déversé à travers l'Église. Et il est en effet le rocher qui a été frappé. C'est lui qui est à l'origine de ce fleuve. C'est de lui que sort ce fleuve. Tout ce qui est d'origine divine nous ramène également à Dieu. Cela nous relie à Dieu. Cela nous rapproche de Dieu. Quoi que ce soit, si c'est d'origine divine, cela nous rapproche de Dieu. Cela nous ramène à lui. Il n'y a rien de ce qui est d'origine divine qui nous éloigne de Dieu. Jamais. Jamais. Peu importe ce que c'est. Cela nous rapproche du Seigneur. Qu'il plaise à Dieu de nous rendre cette parole grande et de nous mettre chaque pensée dans le cœur. Je vous le dis, nous n'avons pas besoin de demander, de prier pour ce fleuve. Ce courant, ce fleuve se déverse. Il nous suffit d'adopter la bonne attitude. Et comme cela a été demandé dans la prière, de laisser nos sens, nos pensées s'ordonner de manière divine pour que ce courant se déverse, ce fleuve puisse se déverser dans l'église du Dieu vivant. Pour que ce courant se déverse dans l'église du vivant. Que nous en soyons tous saisis et sachions que Dieu est au milieu de son peuple. Comme il est écrit ici, le verset 5, psaume 46, verset 5. Un fleuve est là, ses ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, la demeure du Très-Haut. Un fleuve est là. Qui est la demeure du Très-Haut? Qui est son sanctuaire? Ici-bas, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, par l'offrande de son sacrifice, il a sanctifié une fois pour toutes ceux qui ont cru en lui et il les a conduits déjà au but. Hébreux 14, verset 10. Il s'est créé un sanctuaire ici-bas. C'est son Église. Et il est dit que Dieu est au milieu d'elle. Et si Dieu est au milieu de nous, nous ne chancellerons pas. Nous ne vacillerons pas. Nous nous réjouirons de tout ce qu'il a fait par grâce et continue de faire par grâce. Il ne nous reste plus qu'à louer et à célébrer et à exalter le nom du Seigneur. Et je suis sûr et convaincu que Dieu nous aidera à reconnaître de toutes les manières ses voies avec nous maintenant et à comprendre que tout est déjà préparé. Il nous suffit d'affronter le quotidien avec tous ses soucis et ses tracas. Et parfois, les choses qui veulent si facilement nous saisir et faire surgir une pensée. Le frère t'a dit quelque chose, ou la sœur t'a fait du mal, ou ce qu'il a fait n'était pas bien, et ce n'était pas bien, personne. Mais écoutez, personne ne prétend que tout est juste. Mais cela n'aide personne que l'on s'y arrête et qu'on y pense. Cela n'aide personne de s'attarder sur des choses. Au contraire, elles nous gênent. Elles sont un obstacle pour nous. Et je veux vous dire que l'un ne fait pas de mal à l'autre intentionnellement. Cela n'existe pas. Et si quelqu'un pense être dans son bon droit, laisse-le faire. Un jour, il comprendra peut-être lui-même si c'est vrai ou non. Alors, si nous nous réunissons ici, il est absolument nécessaire que nous libérions nos cœurs et nos consciences de tout ce qui pourrait s'interposer entre nous et Dieu. Et qui empêcherait et freinerait la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il ne sert à rien que nous nous réunissions ici en soupirant les uns contre les autres, en étant les uns contre les autres. Cela ne sert à rien, car l'Esprit de Dieu est alors attristé déjà, et la bénédiction de Dieu est arrêtée. Je veux dire que nous sommes tous arrivés à un stade où nous pouvons dire et où nous pouvons où cela peut nous être dit, donc, et alors tout va bien. Et nous pouvons faire confiance au Seigneur pour qu'il aide chacun par grâce. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tellement facile de faire ou bien de faire ou de se faire dire, ah, la sœur a voulu faire ceci ou cela, ou le frère. Personne n'a voulu faire du mal. Personne n'a voulu faire du mal à quelqu'un. Cela en avait peut-être l'air, mais ce n'était pas voulu. Peut-être que l'un entend ceci, l'autre cela, et on s'y arrête. On le remue devant soi et c'est comme si les enfants voulaient faire une boule de neige. Hein, elle devient de plus en plus grosse et à la fin, on prend peur de tout ça. Ce n'est pas du tout nécessaire. Toute personne qui se tient dans la vie terrestre, et je voudrais demander à tous les frères qui sont dans la vie professionnelle, c'est parfois dur, hein, n'est-ce pas? Ou bien pas, oui ou non? C'est très dur. Si tout le monde faisait la gueule, comme on dit, parce qu'un collègue a dit quelque chose, que se passerait-il? Tout le monde ferait la grimace, regarderait dans une autre direction et personne ne saurait plus où est le chef. Ce n'est pas possible du tout ainsi. Déjà dans cette vie, on doit faire face d'une manière ou d'une autre à toutes les choses qui nous attendent. On ne peut pas simplement rester à la maison et dire aujourd'hui je n'y vais pas du tout, il m'a fait mal, je vais plus au travail. Non, on y va parce qu'on a déjà fait du mal à l'autre depuis longtemps nous-mêmes, n'est-ce pas? On n'a peut-être même pas encore remarqué la douleur que nous infligeons aux autres. Nous ne la remarquons même pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes tellement en forme après avoir fait du mal aux autres. Mais parfois, c'est notre tour. Nous devons demander et dire, Seigneur, aide-nous maintenant à supporter toute cette affaire en beauté et à ne rien laisser s'accumuler dans mon cœur. Il y a cette parole dans Jacques 5, au verset 9 qui dit, ne gémissez pas, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne gémissez pas les uns contre les autres, car le juge est à la porte. Cela ne doit pas être. Nous pouvons être un peuple de Dieu dans lequel le fleuve se déverse, diviser les ruisseaux en un lieu où le Seigneur est présent pour manifester effectivement sa puissance et sa gloire d'une manière tout à fait puissante. Vous savez que je suis maintenant en première ligne et que je me fais tirer dessus par tout le monde. Mais plus cela se produit, plus l'amour pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple devient grand, profond et intime. Tout nous rapproche du Seigneur, nous aide à renoncer à nous-mêmes, et c'est le moins le plus difficile de renoncer à soi-même, à nous-mêmes. Cela commence parfois déjà au sein de la famille. On m'a demandé comment cela devait se passer dans le mariage, et c'est l'un des chapitres les plus difficiles. On ne peut même pas en parler. La pratique doit le montrer à tous les gens, et ils sauront. Alors, s'ils sont désolés ou non. Mais il est évident qu'il faut toujours se poser la question, de quoi s'agit-il en réalité? S'il s'agit de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, alors la parole de Dieu passe avant tout, s'il s'agit de la volonté de Dieu. Dans ce cas, l'homme ne peut pas dire, tiens, j'ai quelque chose à dire. Car la femme pourrait alors dire, attends une minute, s'il te plaît, mais il y en a un qui a encore plus à dire que toi. Quand il s'agit d'une réunion de choses que Dieu nous demande, l'homme ne peut pas simplement dire, alors aujourd'hui c'est un beau dimanche, aujourd'hui je reste à la maison. Alors la femme peut aller au service divin, parce qu'il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme le font certains. Il faut savoir qui fait les demandes et de quoi il s'agit ici. S'il s'agit de choses divines, c'est à Dieu de décider. L'homme et la femme doivent s'y plier de la même manière. S'il s'agit de choses terrestres, l'homme a le droit de dire à sa femme, de dire ce qu'il veut. S'il s'agit de la cuisine, alors que la femme décide, c'est mieux que si nous devions encore nous en occuper. Laissez donc, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous l'utilisions, que nous en profitions et que nous ne nous dispersions pas, mais que nous laissions tout simplement les choses s'organiser correctement dans leur contexte afin que la bénédiction de Dieu puisse effectivement reposer sur nous tous, que nous soyons aidés et que nous puissions vraiment être considérés comme un sanctuaire de Dieu, frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Nous ne pouvons pas simplement tout mettre sur le compte du bâtiment et dire, le Seigneur nous a donné un beau bâtiment et il est descendu là avec sa gloire. Tout cela est beau, tout cela est vrai, mais tout cela ne nous sert à rien. Vous savez pourquoi? Je pourrais vous prendre comme ça. Luc 2, et nous l'avons étudié ici, les bergers dans les champs. Ils ont entendu le message et ils ont vu la lumière. Mais Jésus-Christ n'était pas encore dans la lumière et il n'était pas encore dans le message. Il était là. Il était là-bas. Et le désir de leur cœur n'a été assouvi que lorsqu'ils sont allés là où se trouvait Jésus et qu'ils l'ont trouvé. Entendre le message est une chose merveilleuse. Voir la lumière dans notre temps est quelque chose de glorieux. Mais tout cela n'est arrivé que pour que nous trouvions notre chemin vers Jésus. Et je vous le dis, l'heure est venue où nous ne devons pas nous arrêter avant d'être arrivés à lui et de l'avoir rencontré personnellement. Et comme les bergers, comme Siméon et tous ces gens, de voir et d'être témoin de la chose. Et comme l'homme de Dieu à l'époque, maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix. Il avait la parole de la promesse. Le Saint-Esprit était sur lui. Tout cela était beau et bon. Il rendait témoignage, c'était merveilleux. Mais l'heure devait venir où il verrait de ses propres yeux et tiendrait dans ses mains ce qui lui avait été promis. Les bergers auraient pu dire longtemps, nous avons entendu un message glorieux. Oh, nous avons vu une grande lumière venant du ciel qui nous a éclairés. Tout cela était beau et merveilleux, mais tout cela ne faisait que faire référence à notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Ils n'étaient pas satisfaits de tout cela. Ils sont allés voir ce qui s'était passé. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Puis ils sont revenus remplis de joie. Nous sommes heureux pour le message. Nous sommes heureux pour la lumière. La question est maintenant, où est le Seigneur Jésus? L'avons-nous trouvé? L'avons-nous rencontré? Sommes-nous arrivés à l'endroit où il peut se révéler à nous, à chacun, à nouveau? Avec Paul, c'était sur le champ. Il a vu la lumière, il a entendu la voix. Et il a demandé, qui es-tu? Seigneur, il n'a pas demandé la lumière, il a demandé à celui qui était dans la lumière, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, je suis Jésus. C'est ce qui doit nous arriver. C'est bien d'avoir entendu le message. C'est bien d'avoir vu la lumière. Mais maintenant, la question, Seigneur, qui es-tu? Et la réponse est, je suis Jésus. Lorsque nous l'avons trouvé et que nous avons eu une rencontre personnelle avec lui, alors toute notre sensibilité, toute notre vanité, tout ce qui peut nous émouvoir disparaît alors et nous devenons une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous poursuivons notre route dans la joie en remerciant le Dieu vivant de nous avoir donné la lumière pour que nous puissions y marcher jusqu'à ce que nous arrivions là où nous voyons le Seigneur Jésus tel que les Saintes Écritures le décrivent. À nous, c'est notre souhait à tous et notre prière à tous. Que Dieu lui-même réjouisse la cité de Dieu par sa présence. Puisse-t-il l'abreuver de délices comme d'un fleuve et que les ruisseaux de Dieu se déversent et que nous trouvions au pied du Seigneur le repos et la paix et que nous le vivions, nous l'expérimentions à nouveau en ce temps. Amen. Levons-nous et prions encore ensemble. Père céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Ta parole est si glorieuse. Les pensées qu'elle contient si profondes que devons-nous te dire, tu as érigé sur la terre un lieu qui n'a pas été construit par des mains humaines, un temple saint de Dieu, une maison de Dieu, bâtie avec des pierres vivantes. Tu es la pierre angulaire. Et nous avons été placés dans cette demeure, de Dieu, construite sur le fondement saint des apôtres et des prophètes. Dieu fidèle, tu veux toi-même faire en sorte que ta gloire se manifeste encore une fois et que le fleuve se déverse encore une fois. Ô Dieu, que toute sécheresse soit ranimée, que les feuilles ne tombent pas et que le fruit ne se fane pas, mais que tout verdisse et fleurisse et que la maturité complète puisse venir en ces derniers jours. Sauveur, tu veux purifier nos cœurs de toute pensée qui ne peut subsister devant toi. Enlève de moi et de chaque cœur individuel tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait obstacle à l'action de ton esprit. Que ton sang précieux et saint nous purifie et nous sanctifie afin que nous puissions entrer en ta présence pour te parler. Dieu fidèle, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Et nous te prions de faire en sorte que l'onction de ton Esprit Saint vienne sur nous tous d'une manière si puissante que nous puissions ressentir un fleuve du Dieu vivant se déverse ici et se divise en plusieurs ruisseaux, remplit tel ou tel cœur et se déverse de manière à le faire déborder. Alléluia. Toi-même, ô Seigneur, tu as dit, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillira dans la vie éternelle. Et là, tu as parlé de l'Esprit qui devait venir sur ceux qui croiraient en toi. Ô Sauveur, enlève tout, Dieu fidèle, toute dureté de cœur, tout malentendu, tout ce qui voudrait en quelque sorte faire obstacle, et accorde-nous la grâce de te rendre gloire par notre foi, par la confiance que tu as placée en nous. Alléluia, à ton nom glorieux. Nous attendons avec impatience, même pour les jours à venir, que tu nous bénisses de la richesse de ta grâce. Loué soit ton nom glorieux et merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen.